Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello les amis, ici Pauline Aignot et vous êtes sur Le Gratin. Le Gratin, vous le savez, c'est un podcast où toutes les semaines je vais à la rencontre de personnalités toutes plus incroyables, plus exceptionnelles les unes que les autres. Et alors aujourd'hui, je sors de ma zone de confort et je suis avec un montagnard, un sauveteur en montagne, un alpiniste. J'ai le plaisir d'accueillir sur Le Gratin Blaise Agresti. Si vous voulez le retrouver, si cet épisode vous a plu à l'issue de votre écoute, eh bien n'hésitez pas bien sûr à lui faire un petit coucou sur LinkedIn où il est actif. Vous pouvez le contacter directement sur son compte perso et puis pourquoi pas aussi sur Mountain Path, le nom de son entreprise. Je suis sûre qu'il sera ravi. Alors, qui est Blaise? Il a vraiment déjà un parcours exceptionnel, je vous le dis, et je pense qu'il fera sens pour celles et ceux qui veulent se reconvertir. Passionné par les montagnes, Blaise est diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr, mais aussi de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, en passant par le centre national du ski et d'alpinisme. Waouh, rien que ça! Après 23 ans passés dans la gendarmerie, Blaise a fait un virage à 360 degrés pour reprendre une formation en école de commerce. Il est ensuite devenu directeur commercial international de l'entreprise Petzl pendant 2 ans, avant de se lancer en 2017 dans la création de Mountain Path, une école de management d'altitude. Il met aujourd'hui ses compétences de guide sauveteur au service des entreprises et donne également des cours dans différentes universités. Il a publié 2 ouvrages sur l'histoire du secours en montagne, que je vous invite d'ailleurs vivement à découvrir, In Extremis d'abord, et puis Une histoire du secours en montagne. Cet épisode, vous allez voir, est un vrai concentré de sagesse. On a parlé de montagne comme d'un lieu d'apprentissage pour toute personne, et notamment pour la gestion managériale, avec l'importance de la coopération, de la responsabilité, de la vulnérabilité, mais aussi de santé au travail et de leadership, bien sûr. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Blaise Agresti. Bonjour Blaise.
Bonjour Pauline.
Bah écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur Le Gratin à distance, mais ça fait plaisir quand même de vous voir. Donc je vous remercie de vous être rendu disponible pour ce moment. J'ai un petit peu réfléchi pour cette interview et je me suis dit certainement que le meilleur moyen de commencer, en fait, c'était de parler de sauvetage en montagne. On va parler de tout le reste après, Mountain Path, tout ça. Mais je voulais parler de ça parce que je trouve qu'on a souvent une image d'épinal du sauvetage en montagne, mais au final, personne, en tout cas de normalement constitué, qui ne l'est pas fait, ne sait vraiment ce que c'est, en fait, comment ça se passe, un sauvetage en montagne. Et du coup, je voulais vous demander si vous pourriez me décrire peut-être une des expériences les plus marquantes que vous ayez vécues dans le domaine pour qu'on se projette un peu et qu'on comprenne justement ce dont il est question.
Bah oui, bah, effectivement, c'est un métier qui est extrêmement intense sur le plan émotionnel, sur le plan opérationnel, sur le plan même physique, hein. Alors moi, si je devais raconter, enfin, je raconterai peut-être tout à l'heure ma dernière expérience, mais là, je raconterai ma première expérience quand je suis arrivé jeune patron du PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, donc au pied du massif du Mont Blanc. Et la première expérience, effectivement, que moi j'ai vécue, c'est une très grosse avalanche qui a balayé un village dans le haut de la vallée. Donc c'était un événement. Moi, j'avais l'impression que c'était un événement comme le PGHM devait en vivre régulièrement, ce qui n'était pas le cas. C'était un événement un peu atypique et énorme. Et en fait, j'ai vécu là, à ce moment-là, donc je venais d'arriver depuis quelques mois, hein, donc c'était extrêmement brutal comme expérience. Mais on se rend compte qu'il y a une capacité de mobilisation hallucinante. C'est une unité qui s'entraîne toute l'année. C'est une petite équipe, hein. Il y a 40 gendarmes à Chamonix. Il y en a 350 au niveau national qui sont spécialisés dans la haute montagne. Mais c'est une unité qui, en quelques instants, en fait, arrive à se mobiliser pendant des heures et des heures. Et moi, j'étais assez scotché et ça nous amènera assez rapidement sur les questions de management, finalement. C'est que c'est des unités qui ont une forte capacité d'autonomie de l'avant. C'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe a un niveau d'expertise qui est extrêmement élevé. Alors, ce sont à la fois des alpinistes de très bon niveau. Ce sont des secouristes aussi. Évidemment, ils savent prendre en charge une victime dans tous les terrains. Donc, ils savent utiliser tout le matériel pour à la fois descendre dans une crevasse, aller en haute altitude, etc. Mais aussi, ils ont une capacité de décision qui est incroyable. C'est-à-dire que même un jeune équipier qui rentre, qui a quelques années de pratique, doit être capable de prendre des décisions à l'avant. Et moi, effectivement, dans cet événement, j'étais à la fois le coordonnateur de l'ensemble de l'opération. Il y avait 300 secouristes qui avaient été mobilisés sur cet événement. Moi, j'avais 27 ans. Je débarquais. J'étais là, vraiment presque le plus incroyable néophyte de l'équipe. Effectivement,
la c'était, pression.
C'était un peu étonnant. Mais ça, c'est aussi les régimes de gestion dans les armées qui font qu'on peut être le jeune lieutenant ou capitaine, patron de l'équipe et quasiment le plus jeune de l'équipe, ce qui était le cas à l'époque, et le plus inexpérimenté. Donc, c'est quand même, ça fait beaucoup de handicap au départ. Et en fait, ce qui m'avait scotché sur cet événement, c'est que moi, j'avais à gérer la presse, j'avais à gérer la coordination des secours. Mais en fait, derrière, chacun, à son niveau, a délivré la réponse la plus juste et la plus pertinente possible à son niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner des ordres pour que la chose fonctionne. C'est peut-être une des caractéristiques un petit peu remarquables de ces unités, c'est qu'il y a un management qui est extrêmement distribué, j'allais dire un leadership très distribué, paradoxalement, alors qu'on pense que c'est une unité militaire où le chef va décider de tout, mais c'est pas du tout le cas. Et je l'avais vécu sur ce premier événement, donc en 99, cet événement qui avait effectivement été à la fois extrêmement brutal, mais extrêmement fluide sur le plan de la réaction collective. Bon, voilà, un exemple. Après, une mission de secours, pour revenir peut-être sur des missions plus classiques, c'est une équipe qui est constituée de 5 personnes, en fait, qui est de permanence 24 heures sur 24 à la base hélicoptère. Donc, il y a 2 secouristes, un médecin, un pilote et un mécanicien. Donc, c'est une équipe de 5 personnes, comme les 5 doigts d'une main. Et souvent, je fais le parallèle, parce quand on parle de management, le mot management vient du mot main, il faut pas l'oublier. Et finalement, la taille optimale d'une équipe, c'est peut-être 5, parce qu'on voit bien que dans une équipe de 5, dans un hélicoptère, il y a une forme de dynamique collective qui est juste incroyable. Donc l'hélicoptère est à la base, prêt à partir. Une alerte va venir à la base du secours, à la base du PGHM. L'équipe va très rapidement se préparer, embarquer dans l'hélicoptère et partir sur le lieu de l'intervention. Ça, c'est vraiment le format standard de ce qu'on vit toute l'année. Et à Chamonix, c'est plus de 1000 opérations de secours comme ça qui se déroulent au fil de l'année.
C'est incroyable, hein. Et surtout, moi, ce que je trouve assez fou dans ce que vous me disiez, surtout sur cette première histoire où on peut se projeter, enfin, ces deux éléments, c'est un, le fait que vous n'ayez effectivement, finalement, pas le plus d'expérience et que vous soyez pour autant leader ou manager. Et ça, je peux imaginer que, en termes de pression personnelle, en termes, voilà, de presque peur, ça doit être quand même quelque chose à gérer de pas évident. Et puis d'autre part, ce que je trouve assez fou aussi, c'est toujours pareil, c'est cet aspect gestion de crise, se dire il y a un village, il y a des gens, il y a des vies qui sont en jeu, il faut pas qu'on se loupe, quoi. Et donc cette pression, on la vit un peu quand on est entrepreneur, on la vit un peu quand on est manager, mais là c'est un niveau qui est complètement décuplé, quoi. Comment est-ce que en tant que qu'être humain, vous craquez pas dans ce genre de cas?
Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que on est totalement adossé à une équipe. C'est-à-dire que ces éléments de stress et d'émotion, effectivement, ils sont vécus individuellement, mais ils sont vraiment adossés et partagés avec une équipe. Et sincèrement, moi, c'est pas dans les temps opérationnels les plus intenses où on a joué la vie, la mort et de l'équipe et des victimes potentielles vers lesquelles on devait mobiliser toutes nos énergies. Et en fait, c'est pas tant dans ces moments-là qu'on vit le stress le plus intense. C'est plus dans les moments d'attente, dans les moments d'incertitude, en fait, qui flottent. C'est rarement quand on est mobilisé dans l'action, quand toute l'équipe est mobilisée, que ce soit le patron, le chef opérationnel, l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des gens qui viennent nous aider aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont venues en support. Le stress, il n'est pas à ce moment-là. Il est soit dans les moments où on doit attendre, soit dans les moments où on doit effectivement débriefer, prendre la mesure effectivement du drame humain qui s'est joué. Donc c'est pour ça que je distingue beaucoup ces moments de stress. Quand on parle de stress d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le stress finalement? C'est surtout l'idée que face à une situation donnée, qui est complexe, qui est incertaine, qui est aléatoire, la question qui va en vis-à-vis, c'est est-ce que j'ai les ressources pour faire face. Si j'ai les ressources pour faire face à une situation extrêmement complexe et incertaine, mon niveau de stress, il n'est pas bien plus élevé que quelqu'un qui est dans son bureau avec un manager qui va lui mettre la pression, avec une incertitude sur son devenir professionnel, sur un projet qui est en train de battre de l'aile. Donc en fait, le niveau de stress, il est totalement lié à l'adéquation entre les ressources individuelles et collectives qui sont mobilisées et la situation auquel on est confronté. Si on est à peu près en équilibre entre la complexité et comme c'est des unités qui ont l'habitude de vivre dans ce niveau de stress, ben en réalité, on le vit pas forcément à ce moment-là de manière la plus forte. C'est peut-être quand on va partager en famille, quand on va prendre la perspective de ses propres enfants qui vont aller pratiquer la montagne pour eux-mêmes, dans des choses qui sont peut-être périphériques à l'action principale, qu'on va avoir des moments de stress qui sont étonnants et qui sont plus liés à un champ personnel. Mais voilà. Et dans ces moments-là, par rapport aux victimes, je dis pas qu'elles sont comme un chirurgien, qu'elles sont objectivées au point d'être presque avec un aspect clinique, en fait, c'est très froid, finalement. On peut dire qu'un chirurgien qui intervient, il intervient avant tout comme un technicien, un praticien qui fait des gestes, qui a une gestuelle technique. Je pense qu'on est plus proche de ça. Et c'est quand on va commencer à accueillir les familles derrière, qu'on va se rendre compte qu'il y a une histoire, qu'il y a une vie, effectivement. Et là, on rentre dans le champ émotionnel, mais c'est toujours après l'action. C'est toujours, il y a des temps qui sont dédiés. Voilà. Alors, dans ces événements-là, le stress, il est soutenu. Mais il est rarement en stress dépassé parce qu'il y a une force collective et un collectif qui permet d'adosser son énergie et sa force, quoi.
Ouais, c'est plutôt ce fameux bon stress qui fait qu'on a de l'adrénaline et qu'on est plus vif et pas le stress qui fait qu'on perd complètement ses moyens, quoi.
C'est un stress plutôt positif, mobilisant. Il est souvent comme un facteur d'accélération et de qualité de la décision en réalité. La mise sous tension, la mise sous contrainte, est plutôt favorable à la qualité des interactions humaines. Je pense qu'il y a un stress lancinant, quand on parle de burn-out, c'est un stress qui s'installe dans la durée, qui ronge de l'intérieur, finalement, notre force intérieure. Mais dans les unités d'action, entre guillemets, qui sont mobilisées, qui produisent quelque chose au service d'une raison d'être un peu plus supérieure, entre guillemets, qui est la vie humaine, en fait, le niveau de stress, il est jugé comme toujours très acceptable et positif. Parce qu'on est au service de quelque chose qui est extrêmement puissant. Je le distingue vraiment d'un stress lent, à bas bruit, qui va ronger progressivement nos capacités, nos forces, parce que on a trop d'incertitudes personnelles, professionnelles, parce qu'on a de la pression, parce qu'on a tout un tas de facteurs sur lesquels on peut pas agir. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut se dégrader et rentrer dans une logique qui est où on se fragilise. Mais on a quand même des secouristes qui sont fragilisés et on a eu des burn-out dans ces unités-là, comme partout d'ailleurs. Hein. Mais c'est surtout des burn-out qui sont liés à l'usure, moins à l'action en tant que telle.
Vous, à titre personnel, vous vous êtes déjà fait peur dans une situation en montagne? Il y a déjà eu des cas où... vous vous êtes dit « Oula, il faut... » Là, va falloir faire gaffe.
Oui, mais enfin, j'allais dire la vie d'un guide ou d'un secouriste. Enfin, et là, je pratique le métier de guide depuis quelques années maintenant. En fait, il n'y a pas une année où on se fait pas peur, quoi. Enfin, c'est dans notre réalité professionnelle, c'est chaque année en fait où on a un événement où on se dit waouh. Là, j'ai eu un peu de chance, c'est bien, tant mieux. Ça peut être un danger qu'on n'avait pas identifié, ça peut être des circonstances qui sont développées dans un sens qu'on voulait pas, mais on pouvait pas faire grand chose. Mais voilà, moi j'ai eu l'exemple avec une cliente, un couple que je préparais pour aller au Mont Blanc, et elle a été très très vite malade en altitude. On était sur une arête, en train de progresser sur une arête assez facile, hein, mais en fait elle commençait à être malade, vraiment vraiment malade. Et moi, j'avais pas trop envie d'appeler le secours pour des raisons qui étaient peut-être des croyances ou des blocages psychologiques. En tout cas, j'ai pas eu envie d'appeler les secours. Et donc, j'ai pris le choix de descendre dans une pente latérale à cette arête, une pente qui était un petit peu chargée en neige. Et je savais qu'il y avait un petit risque de plaque avant, de petite avalanche possible, mais j'avais pas le choix. Elle était malade. Il fallait qu'on s'échappe, qu'on aille vers le refuge au plus vite. Après, on l'a mis dans un caisson hyperbare d'ailleurs pendant toute la nuit, parce qu'elle était vraiment malade. Mais j'ai pris le choix de descendre dans cette pente. Bah, dans cette pente, en bas de la pente, quand moi j'étais en train de les tenir avec la corde derrière l'arête, en bas de la pente, et ils ont déclenché une petite plaque de 10 mètres sur 10, de 20 centimètres d'épaisseur, une petite masse de neige qui s'est mise en mouvement. Ben voilà, ça fait partie des petites alertes. On en a quasiment chaque année, des alertes comme ça. Ça va être une séance de cascade de glace où on va avoir un petit bout de glaçon qui va tomber pas loin, qui aurait pu blesser plus un compagnon de cordée. Ça peut être aussi un déplacement sur un glacier où on voit pas forcément la crevasse et on peut tomber dedans, mais la corde peut fonctionner bien ou moins bien. Ben voilà, donc on est dans ces circonstances-là, j'allais dire. La montagne, comme la mer, c'est un environnement où on ne pourra jamais réduire à zéro le niveau de risque et le niveau d'incertitude. C'est absolument impossible. Ça veut dire qu'il faut se dire que quand on pratique cette activité-là, on accepte cette part résiduelle du risque. Et si on l'accepte pas, il faut certainement pas faire cette activité-là. Et ça veut dire aussi qu'il faut pas vivre, parce que finalement, il y a beaucoup d'activités, prendre la voiture pour aller au boulot, partir, se déplacer, prendre un avion. Ce sont aussi des petits risques et finalement il faut accepter ce déséquilibre dans l'existence pour avancer. Donc moi je suis plutôt de ceux qui pensent que il faut prendre son risque dans sa vie, il faut le choisir, en tout cas il faut essayer de le choisir au maximum, mais c'est fondamental de se dire que le risque zéro n'existe pas et que toute organisation humaine est en risque. Là on a l'impression qu'on découvre l'incertitude là depuis le mois de mars. On a l'impression, là, on a tout un tas de vocabulaire managérial qui se développe autour de l'incertitude, comment on adresse la crise, l'incertitude, etc. C'est le grand poncif du moment. Mais c'est juste qu'on a oublié que depuis l'immédiate après-guerre, on a eu le bonheur immense d'avoir les 30 glorieuses, d'avoir une période de paix incroyable, d'avoir la chute du mur de Berlin qui a limité les affrontements. Donc, on a cru que la prospérité humaine aller emporter tout dans un moment de bien-être collectif, voilà. Mais la réalité humaine, elle est plus complexe. On est nombreux sur Terre. Il y aura des crises. Il y a le Covid. Il y aura des crises géopolitiques, des crises sanitaires, etc. Donc on a juste été rappelé à la raison. Le Covid, c'est juste une piqûre de rappel pour nous dire regardez l'histoire de l'humanité et regardez la civilisation grecque. Hein, la Grèce n'est plus ce qu'elle était au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc les empires meurent, les hommes sont fragiles, la nature est un bien qui est extrêmement vulnérable. Voilà. Et donc toutes ces dimensions de l'incertitude nous sont renvoyées par le Covid comme un rappel. Et quand on est alpiniste, en fait, on vit ce rapport à la nature dans son incertitude la plus puissante comme un quotidien. Et c'est un bonheur, en fait, de se dire qu'on est vulnérable, qu'on est petit, en fait. On est petit dans cet univers de la haute montagne, comme on est petit en tant qu'être humain face au Covid, face à d'autres crises potentielles demain. Voilà. Et il faut cheminer avec cette incertitude sans en faire non plus une source de souffrance ou de mal-être. Voilà. Il faut apprendre à respirer avec ça dans son sac à dos.
Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites, et puis le parallèle évidemment avec le Covid, il saute aux yeux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident. Mais se dire que finalement on n'a pas tellement le choix et qu'il faut vivre avec ce risque, c'est vrai que c'est quelque chose qui, en tant qu'entrepreneur, je vous avoue, me parle, parce qu'en fait, alors même quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, on sait qu'on va avoir des informations limitées, on sait qu'on va devoir prendre des décisions, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et alors vous, c'est un autre niveau parce que c'est à l'échelle de la vie, quoi, finalement. Et si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas essayer de se baquer dans tous les sens. Il faut faire au mieux. Mais où est-ce qu'on trouve finalement la ligne? C'est-à-dire que jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la prudence et où est-ce qu'il faut s'arrêter? Comment est-ce que vous arrivez à prendre ces décisions?
Ça, c'est peut-être la question absolument centrale. La question du renoncement. C'est à quel moment je m'arrête? À quel moment je ne prends plus le risque d'après? À quel moment je m'arrête? Mais en fait, quand on réfléchit à cette question-là, il faut introduire quand même l'idée toute simple qu'on est des êtres vulnérables, ça je pense qu'on le sait tous, mais on a aussi tous ces mécanismes des biais cognitifs, de tout notre fonctionnement cérébral, en fait, hein, qui rentre en ligne de jeu dans cette prise de décision. En fait, on a beaucoup à faire référence finalement à notre fonctionnement cérébral. Et là aussi, peut-être de manière très simple, se dire que quand on regarde l'impact des biais cognitifs, je sais pas si vous avez déjà regardé le codex des biais cognitifs sur Internet, c'est le référencement de l'ensemble des biais cognitifs qui déforment en fait notre perception du réel.
Ouais, c'est monstrueux.
ça fait flipper en fait, hein, parce qu'on se dit, en plus d'être des êtres petits et avec tout un tas de croyances, on a aussi ces biais cognitifs qui déforment notre perception du réel. Donc on rentre dans un univers complexe, enfin on est dans un univers complexe par nature, on veut développer des projets, on veut être entrepreneur, on veut voilà prendre son risque, on veut voilà. Et en plus, on est soi-même notre propre ennemi, individuellement. Et donc moi, peut-être par rapport à cette question du renoncement, je pense qu'il y a dans le renoncement et dans la capacité à s'arrêter une dimension de la décision qui est collective en fait. Comment je m'adosse au regard des autres, comment je challenge mes propres options par le regard des autres, par la force du collectif. Quelqu'un qui serait dans la solitude de la question qui est de dire je continue ou je m'arrête, ça c'est compliqué. Parce que comment savoir soi-même si on est en capacité de continuer ou de s'arrêter alors qu'on est sous l'effet des biais cognitifs, sous des croyances, l'obsession de notre projet de développement, etc. Donc c'est extrêmement compliqué effectivement de savoir à quel moment il faut faire demi-tour. Et ce qu'on dit de plus en plus pour les guides, c'est qu'il faut aussi s'adosser à ses clients, à ses compagnons de cordée. Et que cette fameuse idée du premier cordée, hein, qui a été un peu sanctifiée par notre camarade Macron, c'est effectivement de se dire, ce premier cordée, en fait, il prend des mauvaises décisions quand il n'écoute pas suffisamment ses secondes cordées. Et la question du renoncement, pour moi, elle est vraiment en lien avec la capacité à percevoir son environnement, percevoir ses compagnons de cordée, et si eux-mêmes ont envie de continuer le chemin avec moi et à franchir les difficultés, la tempête, etc., ou ils ont déjà beaucoup donné et l'entreprise est déjà fatiguée, eh ben il faut peut-être aller vers des sommets moins ambitieux, prendre un variantement, un autre itinéraire pour essayer effectivement de se réadapter. Quelqu'un qui serait dans l'obstination, et on a vu quand même des chefs d'entreprise qui sont obstinés dans un cheminement, tous les signaux faibles étaient rouges, entre guillemets, étaient forts, en fait, les gens ont continué à persévérer. Et donc, pour moi, la question du renoncement, elle renvoie à cette capacité à écouter et à être dans la réversibilité de la cordée, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de son compagnon de cordée, se dire est-ce que lui, il a encore envie de continuer à vivre sous pression, ou est-ce qu'il faut que je lui offre un autre chemin, une autre alternative dans mes propres options. Donc je pense que c'est ça un peu la question fondamentale, mais c'est vraiment la question qui, dans l'histoire de l'alpinisme, quand on regarde les grandes ascensions, a été la plus difficile, toujours la plus difficile.
Ouais, bah, je peux imaginer, parce que si je fais toujours le parallèle avec le monde de l'entreprise, ou en tout cas avec l'entrepreneuriat, on nous dit aussi quand même, il faut être persévérant, il faut s'acharner, seul contre tous, ceux qui ont eu les meilleures idées, personne n'y croyait au départ et ils ont dû s'acharner. Et c'est vrai qu'on se dit, bah finalement, est-ce que je suis dans ce cas-là? Mais peut-être pas. Je trouve effectivement que cette question, elle est loin d'être évidente et j'imagine que vous avez raison. Il faut savoir écouter les autres. Ou en tout cas, il faut savoir percevoir quand on a des biais soi-même et que finalement, on est au bord de la folie, quoi. Parce que c'est un peu ça aussi quand même.
Oui, et c'est vrai qu'aussi, on a tendance à magnifier aussi ceux qui ont eu le courage et l'audace de persévérer contre vents et marées, contre tous presque. Quand on regarde les projets comme Tesla ou SpaceX, etc., on se dit parfois, il faut une petite dose de folie aussi dans l'entrepreneuriat. Donc moi, j'essaie d'avoir un discours de raison, mais je sais aussi que la réussite, elle passe par, en tout cas, les grands sommets. En Himalaya, par exemple, si on prend des ascensions incroyables, ça a été quand même ceux qui ont été capables d'aller prendre ce risque ultime, cet extra mile, ce pas de plus, ce petit grain de folie qui ont permis parfois quand même les plus grandes réussites. Donc tout ce que je dis sur le renoncement, c'est valable dans un projet collectif, mais ce qui fait aussi parfois les grandes réussites, c'est être capable d'avoir cette audace, ce pas de plus. Ben, ça, il faut le sentir en fait. Pour moi, là, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement personnel. C'est écouter son intuition et sentir si je peux le faire en fait. C'est audacieux, c'est risqué, mais est-ce que je le sens? Et là vraiment on est dans quelque chose qui est beaucoup plus organique, beaucoup plus physiologique, et on va chercher une intelligence intuitive beaucoup plus qu'une intelligence rationnelle pour aller chercher ce petit grain de folie. Donc il faut effectivement laisser cet espace à l'intelligence intuitive pour aller chercher le sommet et faire ce petit pas de plus peut-être. Voilà, on aura pris un risque peut-être supplémentaire, mais on l'aura senti en fait. Voilà. Et moi, ce que je peux dire en tout cas des plus belles ascensions que j'ai pu faire en montagne, c'est quand on sent qu'on est au bon endroit, au bon moment. C'est peut-être pas très raisonnable, mais on sait qu'on a la force pour le faire. Et c'est ce que j'appelle le kairos, en fait. Les Grecs appelaient ça le kairos. C'est la rencontre entre l'instant et la destinée, quelque part. C'est le moment où on peut le faire. Mais ça va peut-être être une fenêtre de quelques heures, de quelques jours. On peut passer son projet, on peut passer son développement, son entreprise à ce moment-là. Et après, ça va se refermer. Et saisir le moment, l'opportunité maximale dans un environnement de risque, ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont capables de saisir leur kairos, d'autres qui sont, qui laissent passer les trains de kairos devant eux et qui osent pas, en fait, saisir cette chance et cette opportunité.
Il faut accepter le risque aussi.
Pour ça, il faut accepter le risque. Il faut être en capacité, effectivement, de lâcher prise, de se dire que je peux tomber. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'escalade, par exemple, ce qui est fondamental quand on commence à grimper au-dessus d'un point, quand on dit qu'on grimpe au-dessus d'un point, c'est que on passe dans la zone où on va commencer à pouvoir chuter. Il y a que en dessous du point de protection, ma chute sera extrêmement faible en hauteur. Plus je monte au-dessus du point, plus ma chute va être importante. Et ça s'appelle souvent, on appelle ça le crux. Et franchir le crux, c'est accepter finalement de monter au-dessus de ce point. Et plus on va monter, en fait, plus la chute sera grande. Et donc c'est là où on va jouer sa force mentale et ses capacités à continuer à avancer malgré le risque de chute. Ben c'est ça qu'il faut mobiliser effectivement dans la création d'entreprise, je pense. Et moi j'ai vécu aussi dans la création de Mountain Pass des sensations qui étaient aussi fortes que celles que j'ai quand je grimpe au-dessus du point, que je passe le crux et j'ai une forme d'intensité physique, mentale pour pouvoir continuer à grimper. Bah, j'ai ressenti sincèrement la même intensité quand on a lancé le projet Mountain Pass. C'est une petite structure, c'est une petite entreprise, mais j'ai eu des sensations aussi intenses que celles que j'avais quand je grimpais.
Alors justement, vous me faites une belle transition, Blaise. Qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé Mountain Pass ? C'était quoi l'idée derrière ce projet finalement ?
Alors le projet Mountain Pass, c'est une succession d'enchaînements assez logiques, en fait. J'ai raconté tout à l'heure l'avalanche de Mont-Roc, en fait, où moi j'ai été projeté comme patron de cette opération de secours sans avoir été trop préparé, pour être honnête. Et donc tout le travail que j'ai pu faire derrière pendant plus de 10 ans, ça a été au travers des différentes responsabilités que j'ai pu exercer en tant que responsable de l'école qui formait les gendarmes, puis ensuite responsable de toutes les unités au niveau national. Ça a été de transformer la formation des patrons de PGHM, unités de secours, les former à la gestion de crise, les former à la complexité, à l'incertitude, à la prise de décision. Donc on a fait tout un tas de réformes internes, et quand on a fini ce cycle de réformes, on s'est rendu compte que on avait des choses à raconter aux entreprises. Et donc j'ai mis en place un partenariat avec HEC, donc il y a quasiment 10 ans aujourd'hui, où on a accueilli des exécutifs MBA d'HEC dans l'unité de formation que je dirigeais à ce moment-là, pour les faire vivre l'expérience du leadership de l'incertitude. Donc c'était de les mettre dans la peau d'une équipe de secours, dans la peau d'un chef d'opération de secours pendant 3 jours, et effectivement de gérer des opérations de secours et de réfléchir sur le positionnement du leader en situation d'incertitude. Donc ça a été ça la première action qu'on a mis en place. On avait fait un ensemble de supports pédagogiques, on avait réfléchi à cette thématique de la décision dans l'incertitude à ce moment-là. Et quand j'ai fait ces premières sessions de formation avec ces élèves d'HEC, ces MBA d'HEC, et ils ont tout de suite dit « Mais Blaise, il y a quelque chose à développer autour de ça. » C'est plutôt eux qui m'ont fait une sorte d'invitation à poursuivre l'expérience. Et donc, il y a 4 ans maintenant, avec Karine Salvi, on a décidé, donc, qu'elle a un parcours de financier à haut niveau, qu'elle était à New York, à Londres, dans des fonds, enfin, elle a travaillé vraiment dans de l'investissement financier à haut niveau. Mais elle avait voulu devenir guide haute montagne aussi. Donc, elle avait fait un parcours inverse, partir du monde de la finance pour aller au monde de la montagne, et moi, du monde de la montagne vers le monde de l'entreprise. Et avec Karine, on a dit, effectivement, essayons de voir qu'est-ce qui fait que dans l'ascension d'une montagne et dans la réalisation d'une mission de secours, il y a des essentiels qui sont en fait des facteurs clés de succès qui ont une dimension universelle. Et finalement, réussir une ascension comme réussir une opération de sauvetage, quand on respecte un certain nombre de principes fondamentaux, ces principes s'adaptent à l'entreprise et un COMEX ou un CODIR qui respecterait ces principes-là aurait de meilleures chances de réussir dans le développement de son propre projet que s'il ne respectait pas ces principes-là. Donc on est parti sur cette réflexion en disant, est-ce que ces essentiels existent? Est-ce que ces fondamentaux existent d'abord? Et on a commencé à y réfléchir et on s'est dit, ah ben oui, ils sont assez limpides. Et ensuite, comment on peut les transposer? Ça a été tout le travail pédagogique qu'on a fait derrière. Donc ça, c'est le projet Mountain Pass. C'est plus un cabinet de conseil et d'immersion pour pouvoir effectivement déclencher, parce qu'on part du postulat aussi que si on ne vit pas une expérience dans son corps, dans son esprit, dans sa chair, on ne retient rien. Je veux dire, les PowerPoint qu'on a en formation, etc., on se souvient de rien en réalité. Ce qui marque en fait notre expérience d'homme ou de femme, c'est l'expérience vécue, vivante. Et donc de faire des programmes où on immerge un ensemble de personnes dans des situations assez pratiques. Et à partir de là, on fait des parallèles par des débriefings pour essayer de revenir vers les enjeux de l'entreprise. C'est ça le projet qu'on a développé. Voilà. 4 ans, on a fait déjà une cinquantaine de projets avec tout type d'organisations, des grandes écoles, des business schools, des COMEX, des CODIR, de grands groupes, de start-up, etc. Et on voit bien que ça fonctionne, en fait. C'est une dimension qui est assez... revenir à des fondamentaux. Et je pourrais peut-être les donner tout à l'heure, ces fondamentaux, parce que c'est intéressant aussi de les partager.
Bah, allez-y. D'ailleurs, Blaise, moi justement, je suis passionnée par ce genre de sujet. Je trouve ça incroyable de tisser des liens, franchement, entre des métiers de gestion de risque, de secourisme et le monde de l'entreprise, parce que finalement, j'imagine qu'il y a énormément de points communs. Et donc, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez des fondamentaux et puis aussi, justement, peut-être d'une mission sans citer de marque, mais juste qu'on comprenne concrètement qu'est-ce qui se passe quand vous immergez ces collaborateurs, ce COMEX, ces dirigeants. Comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils en tirent? Qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment?
Oui. Ben, je vais peut-être commencer par ça, parce qu'effectivement, ça sera plus pratique que de donner des 5 points théoriques, un peu pédagogiques, etc. Je vais prendre l'exemple de notre dernier client, qui est une boîte de la tech, qui fait effectivement des chatbots, l'intelligence artificielle pour les sites internet, hein, enfin qui permet le dialogue entre la marque et le client avec de l'intelligence artificielle, donc c'est les fameux chatbots qu'on a, voilà. Donc c'est une boîte qui fait ça, qui est une belle boîte française en devenir, on va dire. Et donc en fait, on a fait le séminaire là il y a quelques semaines, hein, donc c'est très récent. Donc on a fait un premier temps, on a fait des interviews sur ces 5 fondamentaux de l'ensemble des membres du COMEX. Donc on a fait des interviews 1 à 1, et on demande à chacun effectivement de nous parler avec sincérité, c'est-à-dire quand on part en montagne, on se parle vrai. Et ça, c'est vraiment la première étape qui est fondamentale. Donc, quand on fait ces interviews, on demande à chacun de nous expliciter où se positionne l'entreprise sur chacun de ces 5 points. Alors, je vais prendre quelques exemples, hein. Le premier point qu'on demande, c'est est-ce que l'ambition, le sommet est partagé avec l'ensemble des collaborateurs? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est accessible? Genre, le sommet, l'ambition, souvent, on en fait quelque chose qui est extrêmement... on fait des grands raouts avec l'ensemble des collaborateurs pour présenter des visions, missions, etc. Mais est-ce que réellement, dans la réalité quotidienne des collaborateurs et des membres du CODIR, cette ambition, elle fait sens? Donc ça, c'est le premier champ des questions. Il y a une dizaine de questions qu'on pose autour de la manière dont cette ambition est construite, dont elle est partagée et dont elle est mise en mouvement. Ça, c'est le premier champ. Donc quand on a fait avec cette équipe, ce COMEX, ces premières questions, on a très vite identifié quelques questions autour de ça, parce qu'effectivement, entre une vision très financière, une vision très innovation de rupture, etc., en fait, il y avait plusieurs ambitions qui cohabitaient et qui n'étaient pas forcément très claires. Voilà, il y avait une vraie volonté de la clarifier, mais c'était pas clair. Voilà, donc ça, c'était un premier sujet qui est extrêmement simple, mais voilà, qui a émergé en quelques minutes d'entretien avec ils étaient 11 membres de ce COMEX, donc effectivement, vous voyez bien que ça sort tout de suite. Deuxième question qu'on pose, c'est qui décide de quoi? Quels sont les rituels de l'organisation? Comment l'organisation finalement confie à des chefs de cordée, centralisés, décentralisés, la décision? Elle est où la décision dans l'organisation? Est-ce que c'est des COMEX qui font du reporting pendant 2 heures? Est-ce que c'est des COMEX qui respectent la règle des 3/3, qui est de dire 1/3 de reporting, 1/3 de scénarisation, 1/3 de décision, par exemple, hein, je donne des idées comme ça. Ben en fait, on se rend compte que c'était un COMEX qui passait beaucoup de temps à faire du reporting et qui n'avait pas forcément clarifié tout le potentiel de subsidiarité de la décision dans l'organisation. Mais ça veut dire aussi que les rituels de décision sont bien structurés et amènent chacun un élément tangible de l'organisation. Donc ça, c'est le deuxième champ de questions, c'est comment on prend les décisions. La troisième question, c'est comment finalement une organisation met en œuvre ses décisions. Une organisation, en fait, revient vers la cordée. Une cordée qui déciderait de gravir l'Everest, mais qui resterait au bistrot du coin pendant toute la semaine à théoriser, à discuter sur le sexe des anges, etc. On va nulle part, en fait. Il faut commencer à se mettre en mouvement, à engager des actions pour bouger, en fait. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'une organisation, on pourrait évaluer sa performance non pas avec des indicateurs, des KPI, mais avec un seul indicateur qui est combien de décisions étaient réellement mises en œuvre ou pas. Mmh. Entre ce que produit la machine à décider et ce que met en œuvre l'organisation, quel est l'écart? Voilà, ça me semble un sujet très intéressant. Et quand on commence à creuser ce sujet-là, là aussi, on lève des gros lièvres à tous les coins de rue. Donc voilà, troisième point, donc c'est autour de l'implémentation. Et là aussi, il y avait un centre de points avec ce client qui était assez clair. Ensuite, on est sur la gestion des ressources. Est-ce que la ressource en temps, la ressource en énergie, la ressource en compétences est adaptée à l'ambition et au sommet qui a été défini? Ça semble tout bête, mais si on se fixe l'Everest, ben on n'a pas forcément besoin des mêmes compétences que si on se fixe l'ascension du Puy de Dôme ou d'un sommet en Alsace, quoi. C'est effectivement ou ailleurs. Donc c'est pas du tout, vous voyez bien, c'est pas du tout le même engagement, les mêmes niveaux de ressources. Donc, est-ce que les ressources sont adaptées à l'ambition? Oui ou non, tout simplement. Mais pas que la ressource en compétences, mais aussi la ressource en énergie, en temps, etc. Le dernier point, c'est le niveau de confiance et de fluidité des relations dans l'organisation. C'est est-ce que l'organisation est fluide? Est-ce que les gens se parlent vraiment? Est-ce qu'ils sont super friendly, sympathiques, sympatoches, mais ils se disent jamais les choses en face? Il y a toujours des agendas un peu cachés, des choses qui sont pas toujours affichées. Voilà. Donc, quand on a fait le tour de ces cinq questions avec un COMEX, je peux vous garantir qu'on sort quelques belles pépites qui font l'objet de la deuxième étape, hein, qui est la mise en situation. Donc là, on les invite à Chamonix. Voilà. Donc, quand on a ça dans les mains, nous, on fait en sorte que nos scénarios pédagogiques les fassent mettre le doigt sur ces questions-là. C'est-à-dire, on fait en sorte que, par exemple, sur le choix du sommet, on leur a dit, par exemple, là, pour ce COMEX, on leur a dit, on vous propose trois ou quatre possibilités. C'est pas nous qui allons choisir en tant qu'organisateur du séminaire, c'est vous qui allez choisir. Et on va vous observer pendant la session de choix de ce sommet. C'était un vrai sommet à choisir, hein. C'était entre le sommet, la tête des posettes, le ceci, le cela. Mais bah, juste d'observer un groupe humain qui ne connaît pas la montagne mettre en place les mécanismes de choix, est-ce que on va là ou là? Bah, en fait, on a vu là en 45 minutes de temps de prise de décision, effectivement, où étaient les problématiques, et on a pu, à travers le débriefing, leur mettre le doigt sur un certain nombre de problématiques de choix et de décision, et on leur a fait faire un grand pas en avant. Bilan, ensuite, on a avancé sur les questions de l'ambition, qui était le sujet majeur pour cette organisation. Et là, on a conclu par un atelier, ce séminaire, où on avait sur le terrain déjà fait avancer les idées step by step. On leur avait fait un feedback aussi des entretiens. Donc ça, c'était pour nourrir leur réflexion. Et en fait, on a fait un atelier pour atterrir et revenir vers l'entreprise, pour les faire travailler sur les trois sujets majeurs qu'on avait identifiés pendant les entretiens. Et pour être très honnête, on leur fait faire un virage stratégique. Parce que en deux jours d'entretien, trois jours de séminaire sur le terrain, ils ont intériorisé leurs enjeux essentiels, leurs fondamentaux. Ils ont vu qu'il y avait des problématiques à régler. Ils vont réaligner tout ça, ils vont repartir et c'est un rebond qui est possible derrière. Et ça, on l'a eu vraiment sur la plupart des entreprises avec qui on a travaillé. On a été dans un moment où on a créé les conditions favorables à un rebond. On n'est pas sur un séminaire récréatif où on se promène en luge et on va picoler au bar du coin. Ça n'empêche pas d'aller boire un genépi ensemble, c'est pas ce que je veux dire du tout. Mais effectivement, on essaie de faire en sorte que le livrable soit le progrès autour de la performance durable de l'organisation, le fait que les gens bougent sur eux-mêmes pour commencer et sur leur collectif et sur leur niveau de confiance dans l'organisation.
C'est hyper intéressant et justement, vous avez utilisé un mot qui me venait à l'esprit quand vous parliez, qui est le terme confiance. Et en entreprise, en communication, ce terme, il est absolument fondamental, bien sûr, parce que c'est comme ça finalement qu'on crée le changement, quand la confiance elle est partagée, si c'est uniquement des ordres autoritaires, bah ça marche quand même sacrément moins bien. Et je fais complètement le parallèle, même si j'y connais pas grand chose, avec les cordées, quoi. Donc vous arrêtez pas de parler, où je peux imaginer que quand on est encordé avec quelqu'un, s'il y a pas la confiance, ça doit pas être facile. Et du coup, j'avais des questions à ce sujet-là, parce que je pense que en tant qu'alpiniste, j'imagine que c'est un sujet qui est indispensable à vos yeux pour une équipe qui marche. Comment faire, c'est très générique comme question, mais comment faire pour susciter la confiance quand on sent qu'elle est un petit peu défaillante? Est-ce que c'est uniquement une question de temps?
Alors, je pense que la confiance, c'est un acte physiologique. Dans le sens où, dans la relation de cordée, en fait, ça fait un peu étrange comme expression, mais je vais l'expliquer. En fait, c'est assez physique, la confiance. Ça se passe à travers le regard. Et en tant que guide, en fait, dès que vous serrez la main de votre client, de votre cliente, dès que vous commencez à l'encorder, dès que vous commencez à vous relier physiquement à la personne, vous sentez ou pas s'il y a de la tension, ou s'il y a du stress, ou s'il y a de la perte de confiance. Et en fait, pour revenir à la question sur quand ça va pas très bien, par où ça passe la confiance, ça passe par la parole. Ça passe par le positionnement de la voix, ça passe par le positionnement de ses propres émotions. Parce que si effectivement le leader, le manager se fait emporter par ses propres émotions, c'est contaminant en fait. La peur est contagieuse en fait, hein. Il faut quand même le savoir. C'est terriblement contagieux, la peur. Et vous voyez bien ce qui s'est passé depuis le mois de mars, quand les gens sont précipités dans les magasins pour se jeter sur des vivres, etc. C'est que la peur nous a contaminés. Parce que c'est des mécanismes qui sont très connus, hein, de contagion émotionnelle. Donc, pour lutter contre ça, il faut des points fixes. Il faut qu'il y ait des gens qui incarnent une forme de stabilité dans l'instabilité. Et ça passe par de la physiologie. Pourquoi ? Parce que si j'essaie de vous débiter un discours rassurant, mais que je suis hyper fébrile, que j'ai une attitude non verbale qui est extrêmement émotionnel et qui est non maîtrisé, en fait, je vais vous contaminer de la même manière. Et les gens qui pensent rassurer en disant des propos extrêmement lénifiants, etc., en fait, ils font le contraire, ils créent de la peur. Et quand, donc c'est pour ça que je dis que c'est physiologique, c'est que c'est un rapport 1-1. C'est, tu me fais confiance, je te fais confiance, mais c'est un rapport ultime, en fait, hein, de survie animale. C'est comme si vous rencontrez un énorme chien en train de vous promener, vous tombez sur un énorme patou qui aboie très fortement. Qu'est-ce qui fait qu'il va diminuer son niveau de stress lui-même et vous laisser passer? Ou est-ce qu'il va venir vous mordre? On n'est pas dans un dialogue avec un discours après le Conseil des ministres le mercredi après-midi. Hein. On n'est pas un truc comme ça avec l'attaché de presse ou qui débite un truc. Plus personne n'écoute ces trucs-là, en fait, parce que ça saoule. Et les gens qui font de la com de crise, comme on la faisait dans les années 90 ou 2000, sans avoir compris la dimension émotionnelle de la crise, en fait, ils passent complètement à côté du sujet. Et on l'a vu beaucoup là dans cette crise, le fait que la gestion des émotions, c'est une dimension fondamentale de la gestion de la crise. Et pour gérer des émotions, il faut rentrer dans un rapport plus physiologique, hein, c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression, parce que on ne démonte pas de la peur avec du discours. On démonte de la peur avec des actes. Et je prends un exemple là aussi tout simple. J'ai parfois, sur une petite arête, on n'est pas encordé. Donc la corde en fait est un super outil pour rassurer, pour transmettre de la confiance, etc. Quand il n'y a pas la corde, il m'est arrivé souvent de donner la main à mes clients juste pour faire un pas sur un évé de la vieille neige un peu dure ou qu'on peut glisser. Mais en fait, juste de donner une main, et on revient au management, donner la main. Le management, c'est aussi donner la main. Si on donne la main, et quand je dis donner la main, c'est presque toucher la personne. Alors, en temps de confinement et de distanciation sociale, c'est pas simple. Mais c'est presque ça. C'est donner la main pour faire diminuer le niveau de tension et permettre finalement à la personne de se remettre, de respirer, de retravailler sur elle-même. Et franchement, en tant que guide, on le fait tout le temps. Mais même une accolade, quelque chose qui dit des choses, en fait, qui dit autre chose que purement de la, voilà. Et là aussi, je peux témoigner d'une petite anecdote. Hein. Je fais pas mal d'alpinisme avec mon épouse. Elle me connaît par cœur. Et en fait, quand on est dans une situation stressante, en montagne où j'ai pas la maîtrise parfaite de tout, j'ai beau avoir un discours rassurant, à la vibration de ma voix, elle sait que c'est pas top. Parce qu'on est toujours trahi par sa propre expression. C'est tout ça pour témoigner du fait que c'est complexe d'arriver à rassurer quand ça va mal et qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le champ de la relation voilà qui est extrêmement visuelle, presque physiologique comme je l'ai indiqué. Voilà un peu quelques éléments, mais ça se pratique après sur le terrain et c'est là où aussi on voit que des personnalités peuvent émerger. Il y a des gens incroyables qui ont émergé pendant cette crise, je trouve. Dans toutes les organisations, il y a eu des talents, des gens qui ont été capables d'être très stables, d'être des gens qui relativisaient, qui remettaient en perspective, qui avaient une capacité à remobiliser l'équipe, qui était, et ça dans toutes les organisations humaines qui ont été soumises à la crise, il y a eu des gens comme ça. Mais ces gens-là, il va falloir aussi les mettre en valeur demain, au moment où on va revenir vers une forme de normalité. C'est des talents qu'il va falloir aussi utiliser et valoriser.
Complètement. C'est passionnant. Je vous remercie. Je voulais parler de gestion de crise, justement, avant qu'on termine, parce que finalement, c'est un peu un sous-jacent dans notre conversation depuis le départ. Et c'est pas forcément une crise comme le Covid. Comme vous dites, ça peut être aussi une crise, une situation qui tourne un peu mal en montagne, quoi. Et ça, c'est drôle parce que j'ai toujours eu un peu cette croyance qu'il y a des personnes qui sont douées et il y en a qui le sont pas. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que ça se construit? Est-ce que ça s'apprend? Finalement, vous, c'est ce que vous faites d'apprendre ça aussi, d'après ce que je comprends, de l'enseigner. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu?
Oui, oui. Enfin, moi, j'avais cette croyance aussi au départ sur le fait qu'il y avait des gens doués pour la situation de crise. C'est vrai, hein, il y a quand même des gens qui, en situation de crise, sont incroyablement talentueux. Voilà, donc ça, c'est vrai. C'est pas une croyance qui est fausse. Par contre, l'autre partie de la croyance qui est de dire qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, pour moi, c'est une croyance qui est fausse. Parce que la crise, en fait, c'est un mécanisme extrêmement prévisible dans sa dynamique, dans sa cinétique. Une crise, c'est toujours à peu près le même développement. C'est toujours un fait générateur, quelque part. Il y a toujours des signaux faibles qui annoncent la crise, qu'on entend ou qu'on n'entend pas. Ça, c'est toujours le même scénario. Il y a toujours ces signaux faibles. Il y a l'événement générateur, et puis après, il y a une propagation de la courbe, comme on a vu, là, la courbe du Covid, la courbe qui propage l'événement. Quand on est face à un événement comme ça, il y a toujours des étapes extrêmement structurantes qu'on peut enseigner. Face aux signaux faibles, il faut prendre des mesures préventives. Face à l'événement générateur, il faut prendre des mesures d'urgence. Il faut ensuite être capable de monter une cellule de crise. Il faut être capable, après, de scénariser le point à atteindre en sortie de crise. Tout ce que je dis là, de manière extrêmement simple, ce sont des enseignements qui sont, quand on forme des gens à ça, qui ont une bonne compréhension de la cinétique, qui ont la bonne compréhension de ce qu'il faut mettre en face en termes d'organisation et les principes et les fameux essentiels dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'entreprise, pour aller vers son sommet. Mais là, c'est pareil pour la crise. En fait, quand vous décortiquez tout ça, que vous posez des modèles mentaux, que les gens ont des repères visuels sur chacune de ces étapes, mais ils rentrent dans la crise en étant hyper sereins. Et pour être très, très, enfin, peu modeste là pour le coup, mais je vais quand même le dire, j'avais fait une série de webinaires l'année dernière au mois de mars qu'on avait offert gratuitement au mois de mars en disant, on vous donne quelques clés. Il y a des gens qui ont écouté un des webinaires que j'avais organisé sur la gestion de crise. Qu'est-ce que c'est que la gestion de crise, les différentes étapes, etc. Et quelques mois après, j'ai reparlé avec ce dirigeant. Il m'a dit, moi, j'ai juste fait que respecter tes cinq étapes. Il y a cinq étapes, là aussi encore. Et effectivement, ça a déroulé, quoi. J'ai juste respecté les principes. Et c'est pour ça que je voudrais juste dire quelque chose qui, moi, me semble essentiel. On parle des grandes lois de la nature, des grandes lois physiques de la nature. Et en fait, dans les organisations humaines, il y a des grandes lois, il y a des principes essentiels qui, lorsqu'ils sont respectés, l'organisation va pouvoir dérouler son projet entrepreneurial, projet développement. Et de la même manière, quand on est face à une crise, il y a ces mêmes règles, ces principes fondamentaux. Quand on respecte ces principes fondamentaux, on gère bien la crise. Quand on ne respecte pas ces principes fondamentaux, on est à côté de la plaque. Et ces cinq grands principes, ils sont là aussi, je peux très rapidement, j'ai commencé à les donner par rapport aux signaux faibles, les mesures préventives. Mais le point clé de ces cinq principes pour la gestion de crise, c'est surtout le dernier. Le dernier, c'est comment effectivement j'identifie mes points à atteindre en termes de comment dire, presque d'indicateur de performance de ma situation de crise. Il faut que j'essaie de qualifier. Je suis au début de ma crise. Je suis face à mon avalanche. Je suis face à mon Covid. Je suis dans les premières heures, dans les premières semaines. Je dois mettre en place une équipe qui anime une fonction qu'on appelle la fonction anticipation. Je la mets de côté et je demande à cette fonction anticipation d'essayer de scénariser le point de sortie de crise. Les organisations qui ont fait ce travail-là, qui ont réellement mis en œuvre les ressources diverses, plurielles, capables de faire un travail d'anticipation et de scénariser le point de sortie de crise, ont toujours un temps d'avance sur l'événement. Celles qui n'ont fait que de la réaction pompier face à l'incendie, je sors mes camions de pompiers, j'éteins l'incendie, etc., mais qui ne travaillent pas sur la scénarisation du point de sortie de crise, elles sont toujours en retard. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça se travaille, et des dirigeants, des managers qui ont été formés à ces principes-là, ils ont toujours la capacité à mieux réfléchir et à mieux structurer le dispositif pour pouvoir générer cette fonction anticipation et se projeter un peu mieux sur la sortie de crise. Et après, on pilote en ajustant en permanence, hein, c'est des mécanismes itératifs, on n'est pas sur des plans, on n'est pas sur la planification où on déroule des plans, on est sur une logique de scénarisation, et il faut rester extrêmement ouvert aux informations qui rentrent pour ajuster la conduite par rapport à ce point qu'on veut atteindre en sortie de crise. Voilà. Et ça, quand on a commencé à former, nous, les patrons d'unités de secours à ces méthodes-là, je peux dire, là aussi, sans fausse modestie, que c'est des gens qui sont sortis avec des capacités bien meilleures que celles que moi j'ai eues quand j'ai eu à gérer cette avalanche en 99. Ils étaient bien plus structurés, bien plus professionnels. Et voilà. Donc, la crise, ça s'apprend. L'incertitude, on apprend à gérer l'incertitude. Et il y a tout un tas de méthodos qui fonctionnent bien et qui sont rassurantes aussi, hein, qui ramènent de la confiance dans les organisations.
Bien sûr. Pour revenir sur le point que vous évoquiez qui est fondamental, donc de l'anticipation de la sortie de crise, est-ce que vous auriez un exemple concret de qu'est-ce que c'est? Parce que moi, j'essaie de me projeter là, alors ça peut être face à une avalanche, ça peut être dans le cas du Covid, mais concrètement, ça veut dire quoi en fait? C'est quoi cette anticipation? Qu'est-ce qu'il faut faire?
L'anticipation, il faut se dire qu'on vient juste de vivre l'avalanche, on vient juste de connaître l'événement, il vient de se produire. On doit évidemment prendre des mesures d'urgence et s'entourer de la cellule de crise. Donc ça, c'est les deux premières étapes. Et là, on crée la cellule d'anticipation qui va commencer à aller chercher le point de sortie de crise. Donc vous avez une forme d'équipe qui gère le court terme et vous avez une équipe qui va essayer de voir l'impact sur le long terme de l'événement. Alors concrètement, sur l'avalanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous demandais c'est quoi les facteurs clés de succès, si vous étiez le patron du PGHM, Pauline, vous êtes la patronne du PGHM, vous devez identifier les facteurs clés de succès sur cet événement, vous me diriez quoi?
Je vous dirais peut-être...
Spontanément, vous me diriez quoi comme facteur clé de succès?
Qu'il n'y ait aucun décès, quoi, qu'il n'y ait que des personnes qui ont survécu à l'avalanche.
Voilà, ça c'est le premier, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme... Donc ça c'est évidemment le premier souci.
Peut-être le fait que ça soit le traité le plus rapidement possible. Donc, il y a certainement un facteur clé de succès autour du temps, quoi, du temps. Mais bon, du temps qui est passé pour extraire les diverses personnes de l'avalanche.
Alors, tout ça, c'est vrai, c'est valable. Hein. Pauline, c'était pas une épreuve impromptue. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on est face à un événement comme ça, on a tendance à vraiment notre cerveau a tendance à produire des mesures d'urgence de court terme. Donc, on veut sauver les victimes qui sont sous la neige, on veut éviter que les gens meurent dans les EHPAD, on veut éviter que les hôpitaux soient saturés. On est toujours dans cette réaction du pompier, quelque part, ce qui est normal. Mais en fait, les facteurs clés de succès sur un événement comme celui-là, ils sont ceux-là, pour une part. Ils sont cette gestion du court terme, de ce qu'on appelle l'opérationnel. Mais ils sont aussi, peut-être, maintenir la réputation de l'organisation. Ils sont peut-être... assurer une communication pertinente, préventive et proactive. Ils sont aussi garantir la compréhension de l'événement, c'est-à-dire l'enquête sur l'événement, etc. Donc en fait, si on commence à dézoomer les facteurs clés de succès sur l'avalanche dont on vient de parler, on aura ceux que vous avez mentionnés, sauver les victimes le plus rapidement possible, bien gérer le temps, bien coordonner les équipes de secours, etc. Vous allez voir qu'il y a une quinzaine de facteurs clés de succès qu'on n'a pas en tête, en fait, naturellement, en tant qu'humain, quand on est face à un événement comme ça. Et si on le travaille pas, Et alors, pour revenir sur un exemple comme le Covid, bah c'est effectivement la scénarisation de sortie de crise, c'est quoi? C'est de dire, je me place à H plus 12 mois, H plus 24 mois, je sais pas, et je fais travailler des équipes sur l'ensemble des impacts en termes d'impact de crise, de reprise d'activité, en termes de capacité sanitaire, etc. Et quand j'ai ma première vague, j'en tire les enseignements, et peut-être que ce que j'ai annoncé, qui était de remettre en place des lits d'urgence, je le fais vraiment pendant l'été, au lieu de rien faire, par exemple. Et on a la deuxième vague qui vient, on a des capacités dans les urgences qui sont de nouveau un seuil plus élevé. Et en fait, tout ça, ça n'a pas été fait. Parce qu'on a géré le Covid, en tout cas pour les deux premières vagues, hein, pour être très honnête, en termes de gestion de crise, on les a joués en pompier. C'est-à-dire qu'on a fait l'extinction des feux et on n'a pas fait du pilotage de crise. On a commencé à faire du pilotage de crise à partir de l'automne. Et là, on commence à être un peu mieux dans une logique. Et le discours de Macron, il y a quelques jours, était plus pertinent en termes de gestion de crise que ceux qu'on a eu avant. Là, je critique, hein, je dépends plus de personne. Je peux me parler de ça. Mais parce que, effectivement, cette fonction anticipation, elle a été très peu animée. Il n'y a eu aucune organisation indépendante, autonome, de l'action politique qui a travaillé sur la scénarisation de la sortie de crise. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça, et je crois qu'il n'y a pas eu cette organisation. Il y a eu le conseil scientifique. On a confié au conseil scientifique le soin de modéliser la dimension sanitaire de la crise, mais on n'a pas modélisé l'ensemble des dimensions, continuité de l'activité, souveraineté nationale, de reprise économique, etc. On sent qu'il y a un peu du tâtonnement. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Hein. Je critique pas, c'était compliqué. Je critique pas de manière aveugle. Mais la fonction anticipation a eu du mal à se mettre en mouvement. Elle s'est mise en mouvement quasiment entre la deuxième et la troisième vague. Voilà. Alors pour l'avalanche, c'est effectivement quand je rentre dans une crise où je pense que j'ai au-delà de sauver les gens qui sont sous la neige, j'ai aussi l'idée qu'il va falloir que je gère d'autres événements possibles, potentiellement, que j'ai une gestion de la com, que j'ai une enquête judiciaire administrative à réaliser, que j'ai des familles à accueillir et assurer un soutien psychologique, etc. En fait, je sors plein de missions nouvelles qui vont me permettre de mieux piloter la crise au-delà du fait d'aller porter assistance aux gens en difficulté. C'est ça qu'en fait on a réellement mis en place. Et donc un patron de PGHM sur un événement comme ça, les 15 facteurs clés de succès de cet événement, il doit les sortir en 20 secondes, quoi, parce qu'effectivement ça, c'est des acteurs réflexes. Et quand on a des gens qui sont formés, des managers dans les organisations qui sont formés, ça va beaucoup plus vite et on a une vision globale de l'événement qui permet de mieux anticiper et de mieux piloter.
Ouais, puis on parlait de confiance. Finalement, quand vous me parlez de ça, et c'est vrai, sans faire de critique pour le gouvernement, le fait qu'on se dise que c'est beaucoup éteindre des feux très ponctuels, qu'il n'y a pas forcément de vision long terme, et qu'on se dise, bon, bah, on est un peu à la merci, finalement, de la crise, c'est pas très rassurant. Alors qu'à l'inverse, je pense que quand on dit tout de suite, voilà la stratégie, voilà vers où on veut aller, on sait pas combien de temps ça va prendre, en tant que, alors, bah, du coup, personne simple, je veux dire, membre d'un pays, mais aussi membre d'une organisation, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus rassurant, et je trouve que c'est là qu'on donne sa confiance, du coup.
Mais exactement. Enfin, c'est merci de la remarque, hein, parce que c'est effectivement cette fonction anticipation, elle donne de la confiance. Elle permet de se dire, le dirigeant, il a une vision de la sortie de crise. Il sait où il va. Et ça, c'est un facteur clé de la confiance. Là, j'ai le sentiment que tout le gouvernement tâtonne, ne sait pas s'il y aura une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième vague, et qu'on est parti pour une crise européenne, une stagflation qui va durer 30 ans et que on sent que tout ça c'est en train de nous envahir et qu'il n'y a aucun pilotage européen et national, bien sûr que la peur elle va gagner. Et la peur va elle-même générer une crise dans la crise. La crise de la peur peut être aussi une crise. Quand on commence à avoir une panique, on l'a bien vu dans les grands moments de l'histoire, hein, les grandes dépressions, etc., les crises en Argentine, c'est la peur à un moment donné qui accélère en fait la chute. Donc c'est pour ça que manager la peur comme un asset, comme un quelque chose qui a une valeur dans la crise, c'est une action en tant que telle. Et d'ailleurs quand on fait à l'école de guerre, on fait un petit peu d'initiation, on va dire la guerre psychologique, fragiliser l'adversaire en atteignant ce qu'on appelle son centre de gravité psychologique par un centre d'action de fragilisation, ça fait partie des trucs qui se font depuis Sun Tzu et les premiers qui ont réfléchi l'art de la guerre. Donc, on comprend bien que atteindre la confiance de l'adversaire dans l'art de la guerre, c'est important. Donc, on se dit bien que dans le business, atteindre le niveau de confiance, enfin, ou soutenir le niveau de confiance de son, de ses propres ressources et fragiliser, si on veut faire ça, ceux de son adversaire, ça fait partie aussi de la stratégie qu'on peut mettre en place. En tout cas, c'est fondamental de se dire que la confiance, c'est un asset extrêmement puissant. Et on doit y accorder beaucoup d'attention, comme d'ailleurs, la nature, au sens de l'environnement, la nature, est un asset fondamental. Donc, si on met au centre de la stratégie d'une organisation l'asset prendre en compte l'environnement, la nature, et prendre en compte le niveau de confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres, avec ses partenaires, avec ses associés, etc., et avec ses clients aussi, hein, évidemment, ben, je pense qu'on a deux fondamentaux, ce qu'on appelle la performance durable, ça c'est sûr.
Là, c'est passionnant. Le temps passe et donc on va nous aussi passer maintenant à l'étape d'après de cette conversation, si ça vous va. J'aime bien terminer l'interview par ce que j'appelle le crible de gratin. C'est des questions un petit peu plus perso, si ça vous va. Il y en a une que je pose souvent, c'est: est-ce que vous avez vécu un grand échec, une grande erreur? Et puis, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en avez appris, si vous nous décrivez tout ça?
Alors, grande erreur, je sais pas. En tout cas, échec, parce que ça a été pour moi une forme d'échec malgré tout. C'est la perte d'un collaborateur dans mon équipe. Quand j'étais à la direction de l'école de formation, il y a eu un des formateurs qui est décédé en préparant un exercice en crevasse, pardon. Et en fait, pour être très très court, parce que je vais pas vous raconter toute l'histoire, et puis elle fait l'objet elle-même d'une vraie réflexion sur ce qu'on appelle le retour d'expérience. Mais moi, la seule chose que je sais, c'est que quand j'ai confié à mes adjoints cette mission de reconnaissance et de préparation de cet exercice en crevasse, quand j'ai confié cette mission, qui était une action de communication qui nous était demandée par la direction générale de la gendarmerie, donc qui venait d'en haut, hein, qui était une demande d'accueillir un ancien ministre dans notre équipe. En fait, j'ai pas accordé l'attention suffisante à l'entrée dans la mission. C'est-à-dire, j'ai dit, ce truc-là, ça m'emmerde profondément de faire cette action de communication pour cette personnalité. On est dans une période de forte activité de formation. J'ai quand même dit oui, j'aurais pu dire non, d'ailleurs. Ça a été ma première décision, c'était d'accepter ce que la direction générale me demandait. J'aurais pu dire non. Donc ça, c'est peut-être mon premier regret. Le deuxième regret, c'est que j'ai transmis cette demande qui venait vers moi, vers mes adjoints, en ayant une espèce de négligence dans la manière d'accorder de l'importance à cette mission. Alors, je sais pas si ça a eu un impact sur l'accident en tant que tel. Je suis pas sûr. Mais ce que je sais, c'est que moi, en tant que patron, j'ai confié une mission qui était une mission de préparation d'un exercice en crevasse à un collaborateur en n'y accordant pas toute l'attention nécessaire. C'est-à-dire en disant, allez, faites-moi cette préparation, mais comme, allez, je m'en débarrasse. Et en fait, je porterai toujours en moi le doute sur est-ce que si j'avais accordé plus d'importance à cette mission, je m'étais tourné vers mes adjoints, qui eux-mêmes s'étaient tournés vers la personne qui est décédée, le formateur, avec beaucoup plus de rigueur et d'attention, est-ce que ça aurait changé le cours de l'histoire? Ça, je ne sais pas. Et en tout cas, je la raconte, cette histoire, d'abord parce qu'il y a un retour d'expérience qui est hallucinant derrière, sur le facteur humain. Donc ça, en soi, ça vaut le coup de le partager. Mais c'est surtout de dire qu'à un moment donné, quand on prend une responsabilité et qu'on donne une responsabilité, la manière et le ton avec lequel on va accompagner cette transmission, c'est-à-dire c'est soit je m'en débarrasse, le pot de pu que je délègue à un collaborateur parce que ça m'emmerde de le faire, donc voilà, ou si j'accorde beaucoup d'importance en disant voilà, je vous confie cette tâche, elle est importante, etc. Ben en fait, on rentre dans la mission avec beaucoup plus d'attention et avec beaucoup plus de chances de réussite. Donc ça a été pour moi, c'est toujours aujourd'hui encore un doute sur l'impact de la manière dont j'ai transmis finalement cette mission, et avec des conséquences dramatiques, parce que lui, il est mort par ses propres erreurs, bien sûr. C'est un professionnel, etc. Il n'aurait pas jamais tombé au fond de la crevasse. Mais tout un tas d'événements et de successions d'événements sur cette histoire, sur cet accident, me laissent penser que lui-même n'a pas fait preuve de beaucoup d'attention dans la préparation de cette mission. Et quelle était ma part de responsabilité là-dedans? C'est un point d'interrogation. En tout cas, c'est des choses qu'il faut entendre. Voilà pour le petit retour d'expérience, mais douloureux. Mais en tout cas, derrière, le bénéfice, ça a été qu'on a changé complètement notre manière de fonctionner en interne, et on l'a partagé. Et c'est devenu une association, d'ailleurs. On a créé une association pour s'occuper des familles, des victimes du secours qui porte le nom de ce formateur. On a essayé de rebondir collectivement là-dessus. Donc, il y a eu plein de choses positives derrière en reconstruction. Mais l'événement en tant que tel, il était très questionnant sur notre pratique managériale.
Je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous parce que clairement, je pense que ça va toucher beaucoup de personnes qui nous écoutent. Une autre question pour vous, Blaise. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, un message peut-être que vous aimeriez partager avec nous, qui vous touche?
Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé, et dans tous mes livres, j'ai toujours mis une citation de René Char, parce que c'est mon poète fétiche, René Char. Donc, et il y a une phrase, effectivement, que j'aime beaucoup, qui renvoie un peu à tout ce qu'on a évoqué. Donc, c'est cette maxime, donc, cette plus qu'une maxime, c'est surtout une phrase de René Char. C'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Donc ça, c'est une phrase pour moi qui est très symbolique d'un chemin de vie, en fait. Voilà. Il faut aussi croire dans sa chance. On a beaucoup parlé de danger, de risque, de crise. Mais il y a aussi, j'ai parlé du kairos. Je pense que quand on sent les choses, quand on a une intuition forte, il faut y aller. Il faut oser imposer sa chance, attraper le bonheur qu'on peut prendre au passage et puis prendre son risque. Et je trouve que cette phrase, elle est très, très puissante par rapport à la conversation qu'on a pu avoir aujourd'hui.
Elle est magnifique. Encore une autre question. Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez qui est plutôt assez controversée? Pas forcément pour faire la polémique, mais je trouve ça toujours intéressant de se dire, OK, le monde croit, je sais pas, que, par exemple, il faut vivre dans une situation où il y a zéro risque en permanence, et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça peut être ce cas-là, ce qui est une de mes croyances personnelles, par exemple, mais est-ce que ça peut être autre chose pour vous?
Moi, j'aime beaucoup. C'est étonnant de la part d'un ancien gendarme, colonel de gendarmerie, de dire ça. Mais j'aime bien franchir les lignes rouges, en fait. C'est-à-dire, je trouve qu'il faut s'autoriser à faire un pas à côté. Alors c'est terrible ce que je dis là. J'en ai conscience sur le plan éducatif, c'est pas à partager trop. Mais j'aime bien franchir des lignes, en fait, hein, parce que je trouve que c'est le sel de l'existence. Il vient aussi parce que c'est toutes ces règles, en fait, hein, quand on regarde la construction de la loi qui est votée au Parlement, la loi qui est, elle est humaine, en fait. Et on a le droit de penser qu'à un moment donné, il y a des lois plus fortes que la loi humaine et qu'on a le droit de franchir si on a des bonnes raisons de le faire, si on a des bonnes raisons et que c'est pour un intérêt, en tout cas que ça ne nuit à personne et que ça peut servir même un intérêt plus général. On a le droit de franchir un certain nombre de règles. Voilà. Et ça, j'ai toujours essayé de faire comprendre à mes collaborateurs que comme les lois et les règles, notamment la gendarmerie, elle est hyper réglementée en interne, il y a plein de textes, etc., pour le bon fonctionnement, mais il y a ce qu'on appelle le discernement, être capable de discerner si la règle, elle est applicable, elle est pertinente, etc. Et il y a une dimension humaine à l'application de la loi, et ça, tous les juges et magistrats vous le direz. Ben, c'est à ce titre-là que je trouve que c'est important d'être capable de franchir certaines limites. Alors, ce que je dis là, c'est pas du tout politiquement correct. Mais en tout cas, dans ma vie, je l'ai souvent fait, des petites choses comme ça. Mais toujours avec la conviction d'être dans l'espèce de bon sens. Ce que je faisais, c'était du bon sens. Voilà. Et que la règle, elle était peut-être, voilà. Donc, c'est une interprétation humaine des choses. Donc, voilà une croyance que j'ai souvent, remise en question. Voilà. Mais c'est pas bien, hein, ce que je dis là.
Si, c'est très bien. C'est très, très bien et je vous remercie. Ma dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont marqué, qui vous ont touché et que, du coup, vous recommandez souvent d'ailleurs autour de vous? Ça peut être d'ailleurs de la littérature, des livres de business, ça peut être des livres sur la montagne, peut-être, je ne sais pas.
Moi, j'en ai plein. Ouais. Il y a plein de livres, hein, on pourrait en parler longtemps des livres. D'abord parce que moi j'en ai écrit quelques-uns sur l'histoire du secours et effectivement à travers ça j'ai plongé dans l'histoire des grands récits de montagne. Donc il y a plein de grands récits de montagne qu'il faut lire et relire. Donc que ça soit les livres de Lachenal, les conquérants de l'inutile, les carnets du vertige. Donc Lachenal, les carnets du vertige, Lionel Terré, les conquérants de l'inutile. Donc c'est des grands classiques, les Frison Roche. Donc toute la littérature de montagne, il y a quand même des belles choses. Je voudrais juste parler d'un livre que j'ai lu là il y a quelques jours, de Virginie Troussier, qui vient de sortir là il y a quelques semaines. C'est donc au milieu de l'été, un invincible hiver. Virginie Troussier, donc c'était publié aux éditions Guérin-Paulsen, et c'est l'histoire de d'un drame terrible qui a été très médiatisé dans les années 60, hein, et qu'elle raconte avec une densité, une poésie extraordinaire. Donc c'est un très très beau texte. Donc ça, je recommande Virginie Troussier. Après, moi, j'ai eu beaucoup de livres de Saint-Exupéry qui m'ont inspiré, Terre des Hommes, Laurent Zarabi. J'adorais ces récits de voyage. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Guillaumet dans Terre des Hommes, cette incroyable survie où il se crache au milieu des Andes et il va survivre pendant des jours et des jours et il arrive à redescendre dans la vallée de manière incroyable. Et là aussi, le texte est très, très bien écrit par Saint-Exupéry. Et encore un dernier petit clin d'œil aussi, parce que on aime beaucoup la littérature, américaine, et j'ai un livre que j'ai adoré, qui s'appelle My Absolute Darling, de Gabriel Talent, j'imagine, et qui est un récit de deux adolescents qui sont en espèce de quête de sens, avec un texte extraordinaire, une écriture magnifique. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur d'écriture, en fait, hein. C'est sur le plan de l'écriture, c'est un des plus beaux textes que j'ai lus depuis pas mal d'années. Voilà, donc My Absolute Darling de Gabriel Talent et ce livre de Virginie Troussier il y a quelques semaines, au milieu de l'été, un invincible hiver. Donc ça, ce sont des livres que je recommande chaleureusement. Voilà, il y aura personne qui s'en plaindra, je pense.
Eh ben, vous me donnez en tout cas sacrément envie de les découvrir. Blaise, vraiment, je voulais vous remercier parce que c'était absolument passionnant. Franchement, j'ai pris plein de notes, j'ai appris plein de choses. Je suis sûre aussi que le public du Gratin sera très très reconnaissant de votre temps. Si jamais on veut vous contacter, si jamais on veut peut-être d'ailleurs caler, une session de séminaire avec vous, avec Mountain Path, comment est-ce qu'on peut le faire?
Ben merci à vous pour l'invitation. Non, c'était super sympa. Oui, pour se reparler, et puis s'il y a des projets, évidemment, on est ravis de pouvoir embarquer les gens en montagne, partager, bien sûr.
Très bien. Et s'il y a quand même certains auditeurs qui souhaitent vous contacter, dites-moi, Blaise, on le fait comment, sur LinkedIn plutôt? Vous préférez que je renvoie vers le site de Mountain Path?
Ben, les deux, en fait, c'est très bien. Effectivement, les deux canaux, par LinkedIn et puis par le site internet. Le site internet est très sympa pour que les gens puissent voir un peu ce qu'on fait. Et puis après, effectivement, on peut aussi laisser aussi mon adresse mail. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc c'est simple, c'est blaise@mountain-pass.com. Voilà.
Super. Je mettrai ça dans l'introduction et attendez-vous à recevoir, je crois, quelques messages.
Bon, mais c'est sympa. En tout cas, merci Pauline pour ce temps, cette écoute et puis cet état d'esprit, c'est chouette.
Ouais, merci à vous Blaise, franchement, c'était vraiment passionnant. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du-6-gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.